Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Les Jeux Olympiques d'hiver 2030, la carte officielle du pôle glace dans la métropole de Lyon a été dévoilée. Le conseil municipal de Lyon s'est achevé hier comme il avait commencé, sous le signe de la gravité, avec une actualité récente marquée par l'affaire Abreux et la mort de la petite Liana. Les élus ont voté, en tout cas à Lyon, à l'unanimité, un vœu fort. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Deux mois après le terrible accident du quartier du Prenet à Décines, la solidarité et le relogement s'organisent. On fait le bilan dans cette édition. Citral Mobilité vient de mettre en service le tout nouveau centre de maintenance et de remisage des tramways à Saint-Fond, 26 000 m² pour le futur tramway T10. Et puis 500 participants sont attendus samedi pour la troisième édition du festival Vélo et Vignes, une nouvelle façon de pratiquer l'œnotourisme. Explication avec l'organisateur Nicolas Velay.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les Jeux Olympiques d'hiver de 2030, la carte officielle du pôle glace dans la métropole de Lyon a été dévoilée. Le palais des sports de Gerland est finalement écarté. À la place, c'est le site d'Eurexpo qui prend du galon. En plus d'accueillir le centre de médias, le parc des expositions de Chassieux devrait héberger le curling et une partie des matchs de hockey. Le reste du tournoi de hockey se jouera à la LDLC Arena à Décines, tandis que la halle Tony Garnier vibrera au rythme du patinage artistique et du short track. Le patron du comité d'organisation, Edgar Gros-Piron, temporise. La répartition définitive sera validée mi-juillet avec les fédérations internationales. Quant au futur village olympique, il se dessine du côté de Bron ou de Décines, au plus près des transports vers la Savoie. Le conseil municipal de Lyon s'est achevé hier comme il avait débuté jeudi, sous le signe de la gravité. Marqué par l'actualité récente de l'affaire Abreux à la mort de la petite Liana, les élus ont voté à l'unanimité un vœu fort. Ils réclament en effet l'inscription urgente au Parlement d'une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Pour appuyer ce texte aux 140 mesures, l'adjointe Sylvie Tomic a rappelé une réalité glaçante. En France, 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Si l'opposition a regretté un texte parfois tourné vers l'autosatisfaction, le consensus l'a pour autant emporté. Objectif affiché, passer de la sanction à la prévention absolue. À l'échelle locale, Lyon accélère déjà avec la formation de sa police municipale et annonce la création d'une commission générale dédiée dès la rentrée de septembre. Près de deux mois après le terrible incendie du quartier Prenet à Décines qui avait coûté la vie à trois personnes, la solidarité et le relogement s'organisent. Les habitants de la rue Sully à Décines voient enfin le bout du tunnel. Lundi, le comité local d'aide aux victimes s'est réuni pour faire un bilan précis sur les 28 familles qui avaient dû quitter leur logement en urgence. Le relogement avance à grands pas. Selon la préfecture du Rhône, 15 familles ont d'ores et déjà retrouvé un toit de manière durable grâce à des attributions de logements sociaux. Quatre autres attendent une visite imminente. Pendant ces deux mois d'incertitude, la solidarité n'a pas failli. 21 ménages ont été pris en charge à l'hôtel par le bailleur Lyon Métropole Habitat, tout en bénéficiant d'un suivi psychologique, social et administratif complet. L'État, la métropole et les bailleurs sociaux l'assurent, la mobilisation restera totale tant que les derniers foyers sans solution n'auront pas été relogés définitivement. Citral Mobilité vient de mettre en service un tout nouveau centre de maintenance et de remisage à Saint-Fond, 26 000 m². Il servira de dépôt officiel à la future ligne de tramway T10 qui reliera Vénissieux à Gerland dès la fin de l'année. Le site peut accueillir jusqu'à 45 rames en simultané pour leurs opérations quotidiennes d'entretien et de nettoyage. Un projet à 35 millions d'euros qui se veut surtout éco-responsable. Le bâtiment intègre des abords végétalisés, un système de récupération des eaux usées et de pluie, mais aussi des panneaux solaires toiture pour produire sa propre énergie verte. C'est le contre-coup brutal de la canicule. Dimanche soir, un violent orage de grêle s'est abattu sur le Beaujolais, brisant les espoirs de nombreux viticulteurs. À Marchand, vers 21h30, un orage stationnaire a littéralement pilonné la commune pendant plus d'une demi-heure. Les rues se sont retrouvées sous un tapis blanc. Les feuilles des vignes sont hachées, les grappes au sol et certaines parcelles affichent jusqu'à 70% de pertes, notamment sur les hauteurs de Quincier en Beaujolais.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
500 participants sont attendus samedi pour la troisième édition du festival Vélo et Vignes. 35 km à parcourir au cœur des vignes, dans les caves, une nouvelle façon de pratiquer l'œnotourisme. Pour en savoir plus sur le festival Vélo et Vignes, nous avons rencontré l'un de ses organisateurs, Nicolas Velay.
On l'appelle festival, mais c'est plutôt une balade festive dans laquelle on va avoir effectivement 500 personnes, 500 participants à vélo qui vont partir d'un domaine et qui vont aller faire une grande balade pour déguster du du vin, donc il va y avoir des arrêts durant lesquels on va rencontrer les vignerons, on va rencontrer tous les gens du coin et on va surtout déguster du vin, découvrir le terroir, découvrir ses paysages, découvrir les cépages du Beaujolais. C'est l'occasion surtout de ramener des Lyonnais à la campagne autour d'eux pour voir comment est fait le vin et comment sont faits les produits locaux qu'on aime tant mettre en avant.
Et comment on monte un tel événement ?
Alors sur un malentendu en ce qui nous concerne, puisqu'on est une bande de copains lyonnais et on a lancé ce festival sur un malentendu. On voulait juste en fait aller dans le Beaujolais pour déguster du vin qu'on connaissait pour certains ou qu'on connaissait pas. Et on a mis une vidéo il y a 2 ans, en 2024, sur les réseaux sociaux en disant on va faire ça, on va prendre nos vélos, on va faire un tour dans le Beaujolais. Rien de sportif, juste pour rigoler entre copains. Qui veut venir ? La vidéo a fait 600 000 vues. On s'est retrouvé avec plus de 200 personnes. On a dû bloquer la billetterie pour que les gens arrêtent de s'inscrire parce qu'on n'est pas de l'événementiel, on n'est pas professionnel du secteur. Et on s'est retrouvé à devoir gérer 250 personnes qui ont fait le tour avec nous la première année. Donc autant dire qu'on a dû tout organiser et que finalement on n'a pas fait la balade entre copains qui était prévue à l'origine.
Alors je suppose qu'il y a beaucoup de préparatifs hein, quand il y a 500 vélos sur la route. Comment ça se passe ?
Alors oui, on se coordonne beaucoup avec les vignerons, avec les mairies, avec les communautés de communes, les offices de tourisme. Et on est surpris finalement que la question de la sécurité revient souvent, de se dire mais c'est pas un peu dangereux de boire du vin en pédalant toute la journée. On est bien content de voir que au fil des années, on se rend compte que on a empiriquement jamais de problème. Les gens se tiennent, on boit du vin, c'est convivial, c'est festif, mais finalement les gens modèrent leur consommation d'eux-mêmes. Nous évidemment, on met des dispositifs, hein, on met des alcotests, on fait des rappels au respect du code de la route. On a plein de choses sur lesquelles nous on est vigilant, mais on se rend compte qu'on a aussi un public qui a la volonté de passer une journée festive où ça se passe bien et pas de finir ivre et de finir dans le caniveau au premier virage.
Comment on organise ça ? Parce que effectivement, 500 vélos sur les routes, ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a des balisages, quelque chose qui est mis en place pour canaliser, pour éviter qu'un automobiliste soit surpris par exemple à un tournant ?
Alors on a des balisages, on a des signaleurs, et puis surtout il faut se dire que chacun va à son rythme. C'est pas une course, donc les 500 personnes partent en même temps, et puis au fil de l'eau, selon la vitesse à laquelle on pédale et la vitesse à laquelle on déguste, on va avoir un groupe qui va être de plus en plus délité, donc ça va être des petits groupes tranquilles, et nous on va veiller justement à la circulation en ayant des signaleurs, en ayant une trace, en ayant même, on a une application qu'on partage le jour J pour que chacun puisse suivre exactement quelle route il faut prendre, parce que justement on prend un soin particulier à faire en sorte de prendre des routes qui soient peu fréquentées. Ça reste des routes bitumées, mais c'est des petites routes et on évite de prendre les grandes nationales où on se fait frôler par des camions, évidemment.
Alors qu'est-ce qu'il faut comme équipement ? Il faut un vélo électrique, il faut un vélo mécanique, on peut venir avec un vélo original ?
On vient comme on est, on peut venir avec son vélo musculaire, comme on dit maintenant. Beaucoup de monde viennent avec leur vélo à assistance électrique puisque c'est quand même plus facile, on finit par avoir du dénivelé dans le Beaujolais. Et puis évidemment, on a toujours des personnes qui vont venir avec des vélos qui, comme encore une fois, c'est pas pour les cyclistes, on a des personnes qui viennent avec des vieux vélos qu'ils ont trouvés dans la cave de leurs parents, des vélos très anciens qu'on est obligé au départ de retaper pour être sûr qu'ils vont freiner dans les descentes. Et puis on a toujours du monde qui va venir avec des cargos et puis des choses plus insolites comme des tandems. On a des tandems à chaque fois, notamment que je pense que c'est encouragé par le fait qu'on a cette ambiance un peu rétro vintage où chacun vient avec des bretelles, un béret, avec une robe à fleurs, et donc le tandem, l'objet s'inscrit bien dans la dynamique et dans la direction artistique de l'événement finalement.
C'est pas vraiment un événement déguisé, mais ça en est un quand même, parce que justement le dress code est un peu particulier quoi.
Oui, c'est ça, c'est pas un événement déguisé, on n'a pas de personnes qui viennent en banane géante ou avec une tête de poney, mais effectivement il y a quand même un côté où on se dit on va marquer le coup, ça va faire des belles photos, et on a souvent des surprises de personnes qui vont venir justement rétro, mais avec des rétros différents. Il y en a qui vont venir années 80, il y en a qui viennent années 60, il y en a qui viennent les années folles, et ça reste élégant, ça reste chic, et donc c'est agréable à regarder, même quand on nous voit juste passer du bord de la route.
Ah, je veux comprendre que vous vouliez bousculer le no-tourisme, ça veut dire quoi ?
Alors ça veut dire que de notre expérience, nous, on entend beaucoup dire que le no-tourisme, alors c'est pas mes mots, hein, mais on entend beaucoup dire que le no-tourisme c'est un truc de vieux, que les gens qui vont à la cave, les gens qui ont les codes pour déguster du vin, pour s'y connaître, pour acheter des caisses de 6 bouteilles et les mettre dans le coffre de la voiture, c'est une population qui a un certain âge. Et j'entends j'entends beaucoup dire que les jeunes ne consomment plus de vin. Les gens qui ont 20 ans, les gens qui ont 30 ans consomment de moins en moins de vin. On s'est rendu compte en parlant avec beaucoup d'acteurs de l'œnotourisme que la plupart sont désarmés et que le genre de produit qu'on propose, on rigole bien, on passe un bon moment, mais c'est aussi un prétexte finalement de rapprocher une population jeune, branchée, souvent citadine, et de les reconnecter avec ce milieu-là, le milieu du vin, dans le sens où c'est pas des jeunes qui seraient rentrés dans une cave pour demander une dégustation parce qu'ils comprennent pas comment ça fonctionne, ils ont pas les codes, ils l'ont jamais fait. Et là, on crée le prétexte pour qu'ils puissent goûter à petite dose plein de vins différents, qu'ils puissent discuter avec les agriculteurs, avec les viticulteurs, et qu'ils puissent mettre un pied dedans pour mieux comprendre qu'est-ce qu'ils boivent au quotidien quand ils sont au resto et qu'ils commandent une bouteille.
Et qu'est-ce qui fait que ça marche là? C'est parce que justement, il y a ce côté festif où on n'y va pas sérieusement, c'est ça?
Pour moi, c'est vraiment le côté léger. C'est que les gens ne viennent pas, pour majorité, ils viennent pas pour le vin et ils viennent pas non plus pour le vélo. On a peu de gens qui sont œnologues confirmés. On a peu de gens qui sont des cyclistes avec tout l'attirail. En général, c'est juste des gens qui veulent passer une journée différente, une journée insolite dont ils vont se souvenir. C'est souvent ça qu'on nous dit. C'est qu'on nous dit, n'importe quelle soirée dans un bar, j'aurais oublié d'ici un mois. Alors que là, faire cet événement-là et passer la journée dans les vignes avec les copains à donc de château en château, de domaine en domaine, avec des DJ, des groupes, de la musique, ça c'est un truc dont je me rappellerai dans 5 ans. Et c'est souvent le retour que nous on a.
Alors 25 km, on a dit, au cœur des vignes. Alors le Beaujolais c'est quand même grand, hein, ça fait plus que 25 km. Quel parcours vous avez choisi pour cette année?
On part donc de Régnier-Durette, dans le Beaujolais. On fait un tour, on va faire le tour du Mont-Brouilly. On ne monte pas le Mont-Brouilly, on fait le tour, on l'observera depuis le bas et ce sera très bien. On va passer à la cave coopérative de Belleville en Beaujolais. On va passer à la maison des Brouilly qui va nous présenter les cuvées de Brouilly et de Côte de Brouilly. On va passer chez les vignerons terroirs de Lantigné, eux qui ont une démarche différente, où ils vont être dans de l'agroforesterie, dans de la biodynamie, dans de l'agriculture biologique. C'est plein de mots que je dis et qu'on peut mieux comprendre quand on parle directement aux vignerons. Et évidemment, on va passer par le cru Régnier. Et nous, ce qui nous importe, c'est aussi d'avoir une diversité de vignerons, d'avoir une diversité de méthodes, d'avoir des méthodes qui soient traditionnelles, des méthodes qui soient plus modernes, d'avoir des vignerons qui sont issus de familles de vignerons et d'avoir aussi des vignerons qui sont partis de Paris pour venir dans le Beaujolais pour avoir leur vigne. En fait, nous, c'est vraiment cette diversité-là qu'on essaye de mettre en avant.
Et qu'est-ce qui les séduit, les viticulteurs, là, dans cette affaire? C'est le fait, justement, que ce soit un peu décalé, que ce soit pas le car touristique qui vient se garer devant l'exploitation?
Je pense que nos vignerons comprennent que c'est un travail moyen terme, long terme, où, effectivement, on a envie de se dire que les jeunes qui viennent, c'est rarement des jeunes qui achètent, qui repartent avec 50 bouteilles. C'est pas comme des Belges qui viennent l'été et qui achètent, qui remplissent le coffre de la voiture. C'est des jeunes qui viennent et qui consomment peut-être moins a priori, mais qui représentent quand même un enjeu où on se dit que dans les années qui vont venir, il faut atteindre cette cible-là pour pas qu'elle se fasse bouffer par le d'autres alcools ou par le vin sans alcool ou d'autres choses, et de se dire qu'on peut rapprocher ce public-là et que c'est difficile de le faire, donc on capitalise sur des événements qui font du vin quelque chose de convivial et de festif, plus que de dire on garde ce côté pompeux du vin traditionnel et qui est le symbole de la France.
Ah, dans cette parade festive, il y a effectivement les vélos, mais il y a aussi finalement de la musique aussi.
Oui, absolument, on essaye d'avoir aussi une diversité, on va avoir des artistes live. Au début, on avait commencé en faisant systématiquement quelque chose de rétro avec de la danse, swing, l'indie hop, des choses comme ça, et maintenant on s'est beaucoup diversifié pour faire quelque chose qui est peut-être plus généraliste, où il va y avoir des DJ dans certains arrêts, il va y avoir des surprises, des choses qui se passent, des happenings avec des animations. Et puis surtout, en fait, à la fin du tour, puisque c'est une boucle, on commence à Régnier, on fait tout un tour et on termine à Régnier-Durette. Et à la fin, on va avoir une guinguette avec des DJ qui vont chacun prendre la main avec une vraie ambiance sérieuse. Alors, pas de la techno toute la nuit, hein, mais quand même un truc où on va pouvoir danser, on va pouvoir continuer à déguster du vin et on va tous passer une bonne soirée. Et
vous insistez enfin sur l'éco-responsabilité. Il faut aller à Régnier-Durette quand même. On peut y aller en vélo. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de voitures qui vont arriver dans le village.
Il y a beaucoup de voitures qui arrivent dans le village. Nous, on essaye au maximum dans ce qui est possible pour nous, puisqu'on reste quand même une petite association. Ça fait tout juste 2 ans qu'on fait ça. On essaye d'encourager les démarches éco-responsables. On essaye de faire en sorte que les participants viennent à vélo depuis Lyon. Nous, on offre des cadeaux pour tous ceux qui seront venus à vélo depuis Lyon et qui pourront nous le prouver. Photo à l'appui. Et puis, effectivement, on essaye aussi de faire en sorte que les participants prennent le train. On n'est pas très loin de la gare de Belleville-sur-Saône, sachant que bah, on reste forcément dépendant des contraintes de la SNCF et que nous on aimerait que ça s'améliore, mais plus vite, même si on voit que ça s'améliore et que les trains, toutes les rames maintenant ont de quoi embarquer des vélos, et on aimerait qu'elles en aient encore plus pour qu'on puisse faire des festivals entiers avec tout le monde qui vient en train, forcément.
Et pour terminer, alors il y a Vélo Vin Copain et puis il y a Jambon Fromage qui est l'association qui organise. C'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs rendez-vous de ce type en fait en France, c'est ça ? C'est vous qui êtes les initiateurs ou c'est parti d'ailleurs ?
C'est ça, en fait c'est l'association Jambon Fromage, c'est notre association qui lance ça. Les festivals Vélo Vin Copain, donc c'est tous les festivals qu'on fait, donc qui gardent ce concept de on se balade dans les vignes à vélo. Et donc ça a tellement bien marché dans le Beaujolais la première année en 2024 qu'on l'a refait en 2025 pas loin de Marseille dans le Luberon et le Ventoux, et on l'a refait aussi au Pic Saint-Loup pas loin de Montpellier, et ça a tellement bien marché à nouveau qu'on l'a refait cette année en 2026 à Gaillac et avec les autres dates habituelles, et qu'on fait aussi tout plein d'initiatives qu'on essaye de varier aussi. On fait ce qu'on appelle les apéros vadrouille, qui sont des grandes balades dans Lyon où on finit dans des lieux insolites, et toujours avec ce concept là de dire on va découvrir du vin qu'on connaît pas, mais on va le faire de manière insolite et d'une manière nouvelle, où dans nos apéros vadrouille, qui sont donc des balades dans le centre-ville, on finit souvent chez des boulangers ou des friperies qui sont ouvertes pour l'occasion, où on rentre dans la friperie, on sait pas à quoi s'attendre, et d'un coup boum, il y a un DJ, c'est ouvert juste pour la soirée, alors que d'habitude c'est fermé, et là on déguste du vin avec les vignerons, avec une ambiance musicale, jusqu'à ce qu'on aille au lieu d'après. Voilà, c'est des formats différents qu'on fait avec l'association Jambon Fromage, mais qui sont toujours autour d'une sorte de renouvellement du terroir et de rendre la France fun, quoi.
Nicolas Vollet, organisateur de Vélo Vin Copain Lyon-Beaujolais, les Gones à pédale, le départ de la Grand Charton à Régny-Durette, 40 minutes de Lyon, samedi donc 4 juillet de 9h à 23h. Les billets sont à partir de 44€, dégustation bien sûr comprise. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain pour la prochaine édition.